Bon matin. Vous allez bien? Je suis bien content de ne pas être obligé de porter le masque pour prêcher. Je pense que je ne prêcherai pas. Hein, c'est pas une habitude de vie, ça. Hein? En tout cas, ce ne sera pas la mienne. Bien. Bon matin. Ce matin, la vie d'Église, ça ressemble à quoi, une vie d'Église? Et j'ai utilisé deux textes pour nous mettre dans le contexte. Et ces deux textes-là suffisent à donner une bonne définition et une bonne mission pour les membres de l'Église. J'aimerais qu'on regarde, s'il vous plaît, dans Matthieu, au chapitre 28 et au verset 19. Je n'avais pas préparé mon Matthieu 28, 19, qui dit « Allez donc dans le monde entier, c'est version BDS, je pourrais prendre 8 secondes, qui serait mieux, excusez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et Actes 1, 8, qui nous dit, Actes 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Deux textes qui définissent la mission et la manière de la faire. Mark Twain a dit un jour, « Les parties de la Bible que je ne comprends pas ne me dérangent pas. Qu'est-ce qui me dérange? C'est celles que je comprends. » Il faut se rendre compte que Mark Twain en était conscient et nous devrions être conscients aussi que nous sommes responsables de notre connaissance. Lorsque nous connaissons quelque chose, nous devrions être capables de l'appliquer, nous devrions être capables de la mettre en pratique. Donc, si je ne le comprends pas, j'ai de la misère à le mettre en pratique, mais si je le comprends, ma responsabilité, je suis responsable de ce que je sais. Je ne suis pas coupable. Parce que Christ est mort sur la croix pour moi et pour vous. Et il m'a enlevé toute culpabilité, mais il m'a laissé ma responsabilité de la vie d'Église. L'Église, création de Christ. Le but recherché à la venue de Christ. Le but ultime, le but. Et on pourrait peut-être dire le seul but, je ne veux pas débattre là-dessus. Le but recherché à la venue de Christ sur terre a été de manifester la gloire du Père. Et pour cela, il a créé l'Église. Donc, comme membres participants d'une Église, nous avons le même devoir, nous avons le même but, nous devrions avoir le même but, manifester la gloire du Père. Le verset 28, le verset du chapitre 28 de Matthieu nous donne la mission à accomplir, faire des disciples. Faire des disciples. Il aurait pu dire faire des croyants, mais il a dit faire des disciples. Et cela, ça pourrait être une prédication en tant que telle. Et il a donné la procédure de l'accomplissement de la mission qui est dans Actes 1, 8. Vous allez faire ça progressivement. Vous allez étendre ça à travers le monde. La grande commission, la procédure de la mission, vient du chef, il vient de la tête. C'est l'ordre du chef, de la tête, de celui qui prône sur nous, de celui qui nous dirige. L'Église n'a pas comme chef suprême le gouvernement de ce pays. Mais elle est liée à Christ. et au mode de fonctionnement que Christ veut que l'on ait. Je ne suis pas redevable à M. Legault. Je ne suis pas redevable à M. Trudeau sur ma vie d'Église. Je suis redevable à Christ pour le comportement que j'ai dans mon Église. Et c'est à lui que je dois référer. Sa mission, sa méthode, il veut la faire progresser à travers sa création. Il désire utiliser son Église. Je vous rappelle que le terme « Église » ne veut pas dire « bâtiment ». On a une image du bâtiment. Mais l'Église, c'est l'ensemble des croyants qui ont confessé Christ comme sauveur. Voilà l'Église. L'individu qui est membre de l'Église, assis au milieu d'une Église, et tous ensemble, nous sommes une Église qui elle-même fait partie d'un plan plus grand qui est l'Église universelle. Nous avons le membre d'Église. On pourrait en mettre plusieurs. J'espère qu'on peut en mettre plusieurs. Qui fait partie d'une Église locale. Qui elle-même fait partie d'une Église universelle. Et ces trois paliers, le membre de l'Église, l'Église locale et l'Église universelle, ont tous le même but. Quel est le but? Quel est le but? Pardon? Faire des disciples. Pourquoi? Pour faire connaître Christ, pour donner gloire à Dieu. Voilà le but. Donner gloire à Dieu. Dieu a dit à quelque part qu'il a fait des adorateurs. Le but de l'Église, le but des membres de l'Église, l'Église locale et l'Église universelle a pour but de donner gloire à Dieu. Le plan d'Actes 1-8 a la même valeur aujourd'hui, a exactement la même valeur qu'au temps où il était prononcé par Jésus sur le mont des Oliviers. Parce que l'Église n'a pas terminé son travail. On n'a pas fini, là. On n'est pas assis en disant, on va attendre Christ, puis on n'aura plus rien à faire. On a juste à attendre. C'est pas vrai. On n'est pas là. Sinon, on serait enlevé. On a besoin de faire un peu d'histoire. Vous pourrez voir plus tard dans vos Bibles, tous les versets que je vais mentionner, il y en a beaucoup, mais c'est une belle suite. Et ça se lit très bien. La naissance de l'Église, dans Actes 2-5, à la suite du discours de Pierre, 3000 hommes de plusieurs régions entendent parler du merveilleux plan de salut. L'Église universelle est mise en place. Plus tard, l'Église locale prend forme au verset 44 jusqu'au verset 47. C'est écrit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église locale. C'est une belle image d'une Église florissante. C'est le genre d'Église qu'on aimerait voir ici. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas toutes ces petits tags rouges-là qui empêchent le monde de s'asseoir. Puis j'aimerais ça que ça soit plein. C'est ce qu'on voyait là. Et cette Église-là est mise en place, et dans les versets qui suivent, on voit des conversions au chapitre 2. On voit une structure de base au verset 42. On voit le ministère des apôtres au chapitre 3. Des guérisons au verset 6 du chapitre 3. Des prédications au verset 12. Des persécutions au chapitre 4 au verset 3. Des rassemblements de prière au chapitre 4 du verset 23 jusqu'au verset 31. Des mises en commun de leurs biens, au verset 32. Des guérisons en plus grand nombre, au chapitre 5. Une structure d'assemblée, merci mon frère. Une structure d'assemblée qui s'installe au chapitre 6 et au chapitre 7. Et au chapitre 7, la persécution et la mise à mort d'Étienne. Ce qui semble être un point tournant de l'Église. Car au chapitre 8, l'Église de Jérusalem est frappée. Il est écrit au verset 1 jusqu'au verset 3 du chapitre 8. Il est question d'une grande persécution et que tous, sauf les apôtres, sont dispersés. Quelle tragédie! On peut imaginer des milliers de chrétiens obligés de partir de leur foyer. Il a dû avoir toutes sortes de questions à ce moment-là. Il a dû avoir plein d'interrogations en disant « Qu'est-ce qui va arriver à notre Église? » L'Église va-t-elle survivre? C'est affreux la persécution qu'on vit. Et c'était le cas. On était si bien ensemble à glorifier Dieu. Pourquoi qu'on doit vivre ça? Au verset 4 du même chapitre, Dieu a la réponse. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voilà la raison. Voilà le plan de match de Dieu qui s'installe. Et Dieu a utilisé la persécution pour cela. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est grâce à cette persécution que j'ai entendu parler du plan de Dieu. Si on regarde cette histoire, on voit que l'Église a été mise en place, qu'elle s'est structurée, qu'elle s'est affermie physiquement, les uns avec les autres, spirituellement dans le cœur de chacun. Et Dieu a permis l'épreuve, et de cette épreuve est sortie une nouvelle structure qui a permis une expansion de la bonne nouvelle du salut. Par la suite, l'Église a évolué en plusieurs variantes, en plusieurs bénédictions différentes, et cela a été le travail de Dieu. L'épreuve que nous pouvons vivre ou que l'Église peut vivre dans la dépendance de Dieu, Dieu peut en faire une bénédiction pour sa gloire et l'avancement de son royaume. Persécution dans le livre des Actes n'a pas été facile à vivre. Ça a dû être plaisant. Ça a dû être très, très, très inquiétant que l'Église s'effondre. Ça ressemble à un démantèlement. Avec une vision humaine, on pourrait dire que l'Église a été un échec. En tout cas, c'est ce qui ressemble à un échec. Nous vivons présentement des moments historiques. Sans pouvoir vous rappeler les circonstances, on se rappelle très bien, on l'entend tous les jours, des moments qui chamboulent la terre entière. On voit des messages qui disent que le COVID doit disparaître. Je l'ai entendu sur tous les médias possibles. Je l'ai même entendu des chrétiens de cette assemblée et d'autres assemblées. Le COVID doit disparaître. Prions pour que le COVID disparaisse. J'ai un peu de misère avec ce genre de prière-là. Par contre, j'aime beaucoup la prière de Jésus lorsqu'il fait face à une épreuve. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si toi, dans ta volonté, le COVID doit rester, qu'elle reste. Je vais l'affronter. Ce que l'on vit présentement, c'est une épreuve. Je vois une assemblée décharnée. Des gens éparses. D'autres à l'écran, que je ne vois pas. Mais ce n'est pas juste une épreuve. C'est un changement, c'est une restructuration. C'est ce qui nous sort de notre zone de confort. J'imagine que ces derniers temps, vous avez été sorti de votre zone de confort. Juste ça m'a sorti de ma zone de confort. Mais comme église locale, comme individu et comme enfant de Dieu, j'ai été sorti de ma zone de confort. Mais Dieu utilise l'épreuve pour que les gens, pour que ces gens voient la profondeur de leur cœur. Dieu utilise l'épreuve pour cela. C'est souvent ce que l'épreuve produit. Mais c'est nous maintenant qui devons répondre à cette épreuve de la bonne manière. L'épreuve est plus ou moins importante. C'est comment est-ce que nous répondons à cette épreuve. M. Bernier disait, une épreuve sur une mauvaise personne la rend pire. La même épreuve sur une bonne personne la rend meilleure. Deutéronome nous dit la même chose au chapitre 8, au verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. » Que vous appeliez les situations du désert, Deutéronome 2, une épreuve, les persécutions de Actes 4, verset 3, la grande persécution du chapitre 8, verset 1, le COVID-19 aujourd'hui, ou tout autre fléau dans le futur que Dieu peut nous donner, le principe sera toujours le même. Ce sera toujours le même combat. Comment est-ce que je vais réagir vis-à-vis de cela? Quelle sera ma réaction? Nous prions chaque mercredi et la première requête dans le haut, la première requête, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, nous prions pour un réveil. Seigneur, opère un réveil. Mais le premier réveil qui doit se faire, où il doit se situer? Dans notre cœur. C'est là qu'est le premier réveil. Dans notre cœur, pas ailleurs. Je peux bien prêcher l'Évangile à travers tout le monde, mais si après je m'assis et je ne dis plus rien, si je me terre dans mon trou, ça ne sert à rien. Le réveil doit être un cœur pour Dieu. La vie chrétienne nous amène à être éprouvés de plus en plus. Et ce que j'entends et ce que je vois me dire quelque part que dans quelques années, ça va être encore pire. Je suis d'accord avec M. Piper lorsqu'il écrit dans « Le coronavirus et Christ » que Dieu prépare ses enfants pour son retour. Nous devons prendre la situation actuelle comme un avertissement. Un avertissement de Dieu. Thessalonicien, qui est au tableau présentement, nous dit que nous ne devrions pas être surpris. Hein? On est persécutés. On ne devrait pas être surpris parce que nous sommes des enfants de lumière, des enfants qui savent des choses. Nous savons que le retour de Christ est imminent et nous devons nous préparer à cela. La situation actuelle nous fait penser que nous devons être sobres et nous tenir éveillés. Être sobres et nous tenir éveillés. Wow, beau programme! Être sobres et nous tenir éveillés. Comment est-ce qu'on se tient éveillé? Comment, à quelque part, je peux me tenir éveillé? On a répété à maintes reprises que nous devons lire la parole. Ça, vous l'avez entendu des milliers de fois. Et ce n'est pas fini, vous allez continuer à l'entendre. Nous devons seulement la lire, mais nous devons la méditer, nous devons la prier. Nous devons être habités par les enseignements de Dieu. Elle doit faire partie de notre quotidien, être à la base de nos décisions, de nos idées, de nos projets. Parfois, des projets qui semblent anodins doivent avoir comme base la parole de Dieu. La lecture, l'approfondissement de la parole dans ma vie, dans mon vécu, n'est pas une option. C'est une nécessité, une obligation. Celui qui délaisse ce principe s'endort tranquillement. Il se repose sur autre chose que la parole. Et finalement, le monde l'influence sournoisement. Plus il délaisse ce principe de la parole de vie dans sa vie et dans sa pensée, plus le monde véhicule vient véhiculer les pensées du monde opposées à la volonté de Dieu. Et c'est sournois. C'est presque imperceptible. Un peu comme l'histoire, savez-vous comment on fait bouillir une grenouille? Bon, vous la connaissez certainement. Vous ne pouvez pas la mettre dans l'eau bouillante, elle va juste sauter et s'en aller. Vous la mettez dans l'eau froide, puis vous montez l'eau, la température tranquillement. Elle va s'habituer à la température et elle va bouillir. Satan utilise la même chose avec nous. Le monde utilise la même chose avec nous. Il nous fait passer des petites choses que l'on ne voit pas, imperceptibles. On va crier contre le gouvernement, on va crier contre le masque, on va crier contre toutes sortes de choses. On va devenir on va utiliser la politique au lieu d'utiliser la parole de Dieu. Mais vous savez tout cela. Vous savez ça. Vous l'avez entendu plusieurs fois. C'est redondant. Vous devriez être même fatigué de l'entendre. Laissez-moi aussi aller plus loin que ça. Pour ce qui concerne l'éveil du chrétien. Malgré que je parle à l'Assemblée de Cap de la Madeleine, je parle aussi à toute espèce de chrétien dans le monde. Le phénomène que je vais parler est un phénomène qui est universel, parce qu'il vient du cœur humain. La lecture et la méditation de la parole continuelle, normalement, devraient nous emmener à glorifier, à aimer, à reconnaître la personne de Dieu qui agit dans nos vies. C'est ce que la parole devrait faire. La parole a cette force en elle qui fait en sorte qu'elle change nos vies, qu'elle nous emmène une nouvelle notion. Elle a le pouvoir de changer nos cœurs, de changer nos habitudes et nos influences. Et elle influence nos pensées qui ressemblent plus à celles de Dieu. Il y a une autre étape à la lecture pour affermir notre cœur en Christ. C'est de l'exprimer. C'est de le laisser sortir. Et il y a plusieurs bienfaits à dire les grâces de Dieu dans nos vies. Il y a énormément de bénédictions à cela. Lorsque je proclame ce que Dieu m'a donné à travers la lecture de la parole, j'affermis mon cœur, j'affermis ma foi. On entend souvent, ça me fait plaisir, ça me fait du bien d'en parler. Et c'est aussi vrai. Lorsque nous vivons des choses d'intense émotionnellement, ça nous fait tellement de bien d'en parler. Le fait de parler de ce que Dieu a dit, ce qu'il me dit à moi, m'amène à un autre niveau de compréhension. Mon cœur s'affermit par ma bouche. Mon cœur se vide par ma bouche afin qu'il puisse être encore rempli. Tous mes sens, ma bouche, mes oreilles sont tournées vers Dieu et ma foi s'affermit. À plusieurs endroits dans les psaumes, David est poussé à parler. Et je lis dans les psaumes, c'est ainsi, et je lisais dans le psaume 106, la réponse à la bénédiction de Dieu. Au verset 14, il dit, « Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes. » Pour les bénédictions de Dieu, « Mes lèvres se sont ouvertes. » Au verset 16, « Venez, écoutez, vous qui craignez Dieu, et je raconterai. » Au verset 17, il dit, « J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. » Il ne pouvait plus se contenir de ce qu'il découvrait en Dieu. Il s'exprimait. Il disait quelque chose. Il ne s'est pas arrêté. Il est clair que dans la parole, utiliser ses sens pour la gloire de Dieu est une bénédiction pour l'enfant de Dieu. C'est clair. Avez-vous déjà tenté de lire la parole à haute voix? La parole n'a plus le même effet. Ça m'est arrivé de le faire, mais je ne voulais pas passer pour un fou, fait que je me suis isolé dans le bois, puis j'ai lu la parole à haute voix pour que mes oreilles l'entendent. C'est un tout autre aspect de la parole de Dieu. Tellement qu'à un point, j'ai lu un verset, je dis, je n'avais jamais lu ce verset-là avant. Mais ça fait combien de fois je l'ai lu? Mais de me le lire, que mes oreilles entendent, que ma bouche le parle, que ma bouche le dise, m'amène un autre aspect de la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque je proclame ce que Dieu m'a donné à travers la parole de Dieu, Dieu m'utilise pour que l'adoration germe dans le cœur des enfants de Dieu. Je deviens, moi, l'outil de Dieu. Nos paroles ont aussi un effet dans le cœur de ceux qui désirent adorer. Nos mots deviennent l'outil que Dieu utilise pour sa gloire, pour l'édification de l'Église, qui en a un grand besoin pour atteindre son but. C'est quoi le but? La gloire de Dieu? J'ai pas entendu? La gloire de Dieu. Le but de l'Église. Et ce ministère n'est pas donné seulement qu'à l'élite, seulement qu'aux anciens ou à ceux qui ont le don. Ce ministère appartient à tous, de manière plus ou moins maladroite, c'est vrai, mais ce ministère appartient à tous. Dieu bénit celui qui s'engage avec son corps. Dans 1 Corinthiens 6:19, excusez, il nous dit que nous sommes un temple. Et pour moi, un temple, c'est un endroit où il devrait sortir des louanges à Dieu. Je ne m'attendrai jamais à cela d'un club de hockey. Je ne m'attendrai jamais à cela d'un club de bridge. Mais je devrais m'attendre à ça d'un temple. Et nous sommes ce temple qui devrait sortir les louanges à Dieu. Il dit ailleurs aussi dans Romains 12:1 que notre corps devrait être offert à Dieu, qui devrait être un sacrifice vivant. Et je crois que dans mon corps, il y a une bouche qui devrait s'exprimer. Dieu bénit celui qui s'engage à glorifier Dieu. Frères et sœurs, on ne fait pas partie de l'Église de Dieu que pour recevoir, mais on fait partie de cette famille afin de donner pour l'édification du peuple de Dieu. Et je le répète, ce n'est pas réservé qu'à une petite quantité de sauvés. Ce n'est pas réservé seulement qu'à ceux qui ont le don. Mais je pense à ça. C'est qui les personnes qui ont le don de parole? C'est quoi ça, le don de la parole? Ce sont ceux qui peuvent dire gloire à Dieu. Ce sont ceux qui peuvent remercier Dieu. Est-ce que vous êtes capable de dire gloire à Dieu? Je ne l'entends pas, là. Donc, vous avez le don de parole. Vous êtes capable de parler. Vous êtes capable de glorifier Dieu. Vous êtes capable de le remercier. Vous êtes capable de prier 5 minutes, tant que ça. Il existe une multitude de raisons pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas acclamer le nom de Dieu et son œuvre. Je ne connais pas les raisons de votre cœur, je ne les connais pas personnellement, mais je peux juste l'imaginer, je peux juste spéculer là-dessus. La première, c'est qu'on croit que les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu ou qui la lisent en surface, qui ne la méditent pas, qui ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que le texte veut dire, qui ne creusent pas la parole de Dieu, malheureusement vrai, ils ne seront pas capables d'ouvrir leur bouche. Ils n'ont pas la base. Ceux qui ne lisent pas, c'est vrai qu'ils ne sont pas capables de parler. Mais ce n'est absolument pas normal pour un enfant de Dieu. Nous devrions être capables de lire la parole avec l'attitude que Jacob a eue dans la caverne lorsqu'il s'est battu contre l'ange. Et il a dit, « Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Je ne quitterai pas la parole de Dieu tant que tu ne m'auras pas béni de ce que je lis. » Et je le lis 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois parce que j'ai de la misère à comprendre. Mais je veux être béni de cette parole. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus ne parle pas ici de don. Il parle d'un cœur qui se vide, d'un cœur rempli qui s'exprime par la bouche. La deuxième raison pourquoi nous croyons que les gens ne partagent pas l'adoration ou ne prient pas en d'autres occasions, et cette deuxième raison comprend plusieurs variantes, plusieurs volets. Je n'ai pas le don de parole, et j'en ai parlé tout à l'heure. Je suis gêné de parler en public. Je suis moins bon que lui ou elle qui parle mieux et qui prie mieux que moi. J'ai peur de me faire juger de ce que je veux dire. J'attends qu'un autre parle avant moi, et j'attends encore. Je n'ai pas cette capacité de parler ouvertement. Je préfère garder dans mon cœur ce que le Seigneur y a mis. Et on pourrait en rajouter qu'il y aurait les mêmes résonances. Mais voici ce que la parole dit au niveau des raisons qui ne tiennent pas devant la parole de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Personne ici ne se moque de personne. On est entre adultes. On n'est pas à la petite école pour se moquer de celui qui fait une exposition vocale. On comprend les débuts difficiles. On comprend les erreurs de mots. Nous avons un esprit de force pour dire les choses. Et nous avons un esprit d'amour et de sagesse pour pouvoir les écouter. Dans Romains 8, 13, version français courant, « Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir, mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. » Nous sommes égoïstes. Je suis égoïste dans ma nature. C'est un combat de vie. J'ai de la misère à travailler pour le bien des autres. J'ai de la misère à travailler pour l'avancement et la croissance de l'autre. Mais lorsque je me lève, que je parle, c'est ça que je fais. J'aide les autres à grandir. Et c'est mon ministère. On doit combattre l'orgueil en nous qui fait que lorsqu'on compare à d'autres. L'orgueil qui fait ressortir nos peurs et nos gênes très injustifiés. L'égoïste qui revient de notre vieille nature. Un principe de vie établi par Dieu, vécu par Christ. Lorsque dans Philippiens 3:10, nous allons connaître Christ et la puissance de sa résurrection. J'aimerais vous rendre conscient de ce verset d'une manière. Celui qui donne, reçoit. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Christ a la puissance de la résurrection. Mais il y a eu résurrection. Avant la résurrection, il y a eu quoi? Il y a eu don de vie. Il y a eu don pour recevoir cette puissance. Et ce principe-là existe dans toute sa vie. Christ a donné son temps et son amour à ses disciples. Vous lirez Jean 17 en focusant sur le mot « donner ». Vous allez voir plein de choses. D'ailleurs, ça serait un beau texte à méditer, Jean 17. Vous verrez que ce que Christ a donné, vous verrez ce que Christ a reçu de ce qu'il a donné. Et vous verrez ce que nous avons reçu de ce don de Christ, qui est une grâce. Christ a donné une vie d'obéissance jusqu'à la croix, et Dieu l'a souverainement élevé avec un nom au-dessus de tout nom. Christ a donné et il a reçu. La seule manière de recevoir la vie éternelle, c'est en donnant notre vie à Dieu. C'est-à-dire en se rendant littéralement dépendant de lui et qu'il devienne notre Seigneur et notre Dieu. Vous rappelez la phrase du Seigneur lorsqu'il dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » dans Actes 20, 35. Ce verset est vrai pour l'argent, c'est vrai pour ce que nous avons dans notre cœur, c'est vrai pour ce que Dieu nous a donné. Nous avons reçu, nous pouvons donc donner. En conclusion, je ne vous ai rien appris ce matin. Vous savez ces choses, vous savez ça, et vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Nous sommes des enfants de lumière, nous connaissons bien des choses sur le futur et nous nous y préparons en donnant tout ce que nous pouvons donner. Pour recevoir Dieu, tout ce que nous avons besoin pour affronter le futur, nous donnons afin de recevoir de Dieu tout ce que nous avons besoin pour le futur. Refuser de donner, c'est refuser de recevoir. Seigneur Dieu, exhorte-nous, chacun de nous, à donner, à te donner et à donner aux frères et aux sœurs ce que tu nous donnes. Nous avons besoin de partager tout ce qui est dans notre cœur pour l'avancement de ton royaume, pour la croissance de l'un et de l'autre. Que tous et chacun de cette assemblée de quatre de la Madeleine et de ceux du monde aussi, nous y engagions. Que nous soyons toujours prêts à donner ce que toi tu nous donnes. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.